Au flux et à mesure, le magazine de Tchat FM, du lundi au vendredi à 18h. Mercredi, débat et conférence publique organisée par les partenaires de Tchat.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme chaque mercredi depuis janvier, nous vous proposons des écoutes sur la question des tabous. Du cannibalisme à l'inceste, en passant par l'assistance sexuelle, quelles sont les origines des tabous ? Sont-ils universels et intemporels, ou seulement relatifs à certaines sociétés ? Quels bénéfices ou risques encourt une société qui lèverait certains de ces tabous ? Autant de questions qui étaient au cœur de la 7e édition de Questions d'éthique, un événement créé par le Lieu Unique et l'association Ethica, et qui s'est tenu en décembre dernier à Nantes. On écoute tout de suite la dernière captation de ces rencontres Questions d'éthique, qui est une joute oratoire des étudiants du Master Éthique de l'Université de Nantes. Bonne écoute!
Demandé, donc vous savez, une joute, c'est un combat, un affrontement. Alors ici, c'est une joute oratoire. On leur a demandé en toute liberté, ils avaient toute liberté, ils ont choisi le tabou de leur, voilà, qu'ils souhaitaient, de défendre un point de vue. Donc ils doivent, à l'aide d'arguments, défendre une thèse, un point de vue argumenté, donc. Alors vous allez voir, la sexualité en EHPAD, les odeurs corporelles, la sexualité des animaux, etc. Pour ce faire, on aura un jury qui est chargé d'évaluer les exposés, les différents exposés. Nous allons appeler notre premier étudiant. Et Émilie, tu as la parole.
Oui. Du coup, notre premier participant, c'est Mathieu. Mathieu, il est étudiant en première année de master. Il est masseur kinésithérapeute et ostéopathe. Père de 5 enfants à 3 enfants près, il s'interroge sur le fait d'en avoir un 6e et il va nous parler de vasectomie.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, les potentiels futurs contraceptés de la soirée. En 2015, c'était au Québec, mon ami Carlo me dit le plus simplement du monde, écoute Mathieu, je me suis fait couper. Alors je me suis fait couper. Quoi ? Qu'est-ce que tu t'es fait couper, Carlo ? Un doigt, une jambe, une oreille ? Il me dit, mais non, je me suis fait couper le canal famille. Alors, je le regarde un peu estomaqué, le canal famille. Il me dit, tu comprends pas ? Je lui dis, mais non, je comprends pas. Il me dit, écoute, le canal famille, c'est le joli petit nom qu'on donne au Québec au canal déférent. Et quand on veut plus d'enfants, on coupe le canal déférent. Et comme ça, les petits spermatozoïdes ne vont plus se mélanger à l'éjaculat. Et donc, on ne peut plus avoir d'enfants. Et quand sa famille est complète, on se fait couper le canal famille. Alors, la vasectomie, c'est un moyen de contraception donc définitive, plutôt définitive, portée par les hommes, qui consiste à sectionner les canaux déférents, qui permet une sexualité sans chimie, ni plastique, pour peu que l'on sache où poser le phallus, qui permet, du coup, pour les couples ayant déjà eu des enfants ou même n'en voulant pas, d'avoir une sexualité, de développer une sexualité pour la sexualité. Alors, c'est un mode contraceptif choisi par à peu près 20% des hommes en âge de procréer au Québec, qui sont... Les hommes, donc les Québécois, sont champions du monde de la vasectomie. En Europe, c'est choisi par 16% des Anglais, 7% des Espagnols, 7% des Belges et 0,8% des Français. Alors, forcément, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que nous en sommes là aujourd'hui. Et je vais étayer mes propos grâce, entre autres, au livre graphique qui est sorti récemment, qui n'est pas derrière moi, qui s'appelle « Les contraceptés ». Et je me suis appuyé aussi sur un avis très sociologique d'une sociologue française qui s'appelle Cécile Ventola, qui a terminé sa thèse en 2017 et qui a comparé l'état de la contraception. Il l'a comparé donc entre la Grande-Bretagne et la France. Elle l'a comparé, pardon. Et donc finalement, on va voir que c'est vraiment un mélange de stéréotypes assez forts et de préjugés et de constructions sociales qui amène vraiment à un problème de droit et d'éthique relativement à cette contraception masculine. En effet, je pense, messieurs, dans ce pays très patriarcal, qu'envisager pour vous que l'on touche à vos bijoux de famille est quelque chose d'assez compliqué. Pourtant, c'est une intervention qui se déroule en à peu près un quart d'heure, sans grand effet secondaire. Et même si elle est peut-être anxiogène et psychogène pour vous, elle n'entravera en rien vos capacités sexuelles, ni votre positionnement dans la famille devant l'éventuel poulet frites du dimanche. Autre chose, alors là c'est un corollaire à la légalisation de la pilule contraceptive féminine en 1967, c'est que quelque part, on a associé un peu naturellement procréation et contraception féminine. Mesdames, vous avez le choix d'avoir ou pas des enfants. Eh bien écoutez, nous messieurs pouvons très facilement nous décharger de la chose. Alors qu'auparavant, de fait, les hommes y étaient un petit peu impliqués dans cette histoire de contraception avec la technique du retrait. Ce qui pour moi, vous le voyez, ne fonctionne pas très bien puisqu'à 2-3 enfants près, ça fonctionne mal. Autre chose, maintenant autre fait, politiquement et socialement peut-être encore plus construit, c'est le fait que la France a une politique nataliste très forte, visant à encourager les naissances. Et finalement, contracepter sa population, que ce soit les hommes ou les femmes, mais peut-être encore plus les hommes en raison de ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est quelque chose de compliqué. D'autant plus que nous sommes un pays de confession catholique, et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur l'Angleterre, le protestantisme n'a jamais condamné la contraception, à l'inverse de la France. Donc quelque part, nous aboutissons à une vision très genrée et très péjorative de la contraception qui ne permet pas d'envisager la contraception, je dirais, pour le bien-être sexuel des couples. Et ceci s'est institutionnalisé, s'est répandu aussi dans l'inconscient collectif. Et aujourd'hui, parfois, lorsqu'une femme va consulter pour un avis contraceptif, ne lui sont pas exposés tous les modes de contraception, y compris ceux qui pourraient être portés par leur partenaire, ce qui encouragerait la communication dans le couple. Quelque part, ça nuit à l'autonomie des femmes et à leur consentement éclairé puisqu'elles n'ont pas toutes les informations qu'elles pourraient avoir. Par ailleurs, de plus en plus d'hommes envisagent un projet contraceptif, ça c'est depuis 2-3 années, mais il y a peu d'informations divulguées par les pouvoirs publics et peu de structures finalement qui permettent d'accueillir les hommes pour les accompagner dans leur projet contraceptif. Alors il semble que la population soit un peu en avance sur les pouvoirs publics sur cette question. Alors de fait, j'ai envie de vous dire, mesdames et en particulier messieurs, de vous emparer de la question, de la faire remonter, de la médiatiser. Et une fois n'est pas coutume, messieurs, tout simplement, dégainez les premiers. Bonne soirée.
Merci Mathieu. Est-ce que le jury, un des membres du jury a une question, une remarque ? Commentaire ou pas?
Oui, ben, merci pour votre présentation. Je rencontre beaucoup de jeunes hommes à partir de 18 ans qui demandent des vasectomies, je ne les fais pas, et des jeunes femmes qui, à 18 ans aussi, demandent des contraceptions définitives. Vous avez bien montré que cette démarche devient grandissante. Hein. Il y a de plus en plus d'hommes en France, même si c'est encore plus que timide. Vous avez bien rappelé les chiffres au Canada, au Royaume-Uni. Vous avez bien montré que c'était simple, que vous avez participé, oui, que la contraception sur les épaules des femmes, c'est quelque chose de lourd. Et donc, vous avez bien signifié que vous étiez là pour diminuer ce poids de la contraception. Donc, j'entends bien. Et donc, il faudra dire aux médecins traitants qu'ils pensent aux vasectomies lorsque les jeunes hommes la demandent et qu'ils ne disent pas bêtement « Oh, vous êtes jeune, vous ne savez pas, vous allez avoir des regrets. » Donc, c'est pas mal. Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Nous allons accueillir notre deuxième participante, c'est Mathilda. Elle est étudiante en troisième année de médecine et elle participe au master éthique. Mathilda adore discuter de tout et de rien à la fois et comme elle le dit, se pencher sur un avis et changer pour un autre au gré des arguments qui se présentent. Mathilda vous propose de parler de sexualité.
Merci. Mesdames, messieurs, bonsoir. La sexualité des animaux. Pour qui est-ce un tabou ? Le lion ? La poule ? Le poisson ? Aucune trace d'une quelconque réflexion à ce sujet de leur côté. Si l'on en croit les chiffres d'une étude menée en 2018 par un fabricant de sex toys, sur 1000 Français, 40% parleraient régulièrement de leur sexualité avec leur partenaire. 11% une fois par an, voire pas du tout. Alors que 88% estimeraient qu'il est nécessaire d'en parler pour la stabilité de leur couple. Pourquoi, si l'on est capable d'observer, d'analyser, de faire des documentaires ou des expositions sur la sexualité des animaux, sans gêne, on se sent pourtant gêné de parler de la nôtre. Dès lors qu'on plonge dans la sphère de l'intimité, c'est comme si nous marchions sur des œufs, peur de choquer, de blesser, d'être jugé. L'être humain, enfin l'homme, appartient au règne des animaux. Mais pourtant, il se distingue de tous les autres par sa capacité à associer réflexion, langage et action, et est ainsi donc le seul à se poser des interdits et des tabous. Les comportements des animaux sur le plan de la sexualité, les comportements animaux et humains ont d'énormes similitudes sur le plan de la sexualité. Et Jean-François Dortier, dans une de ses revues L'Humanologue, en dresse quelques exemples. Cependant, force est de constater que l'animal semble plus libre d'exprimer sa sexualité en se posant aucune question, enfin en tout cas on a l'impression qu'il ne s'en pose pas, par rapport à l'homme qui s'en pose beaucoup et qui se crée donc des complexes pour rentrer dans des normes un peu implicites mais qui sont un peu imposées par la morale de la société. Ainsi, est-ce que l'homme devrait s'inspirer de l'animal pour se libérer de ses complexes et de ses tabous? Petit plongeon dans un club d'échangistes. Vous venez avec moi? Bon, les règles sont plutôt claires. Respect des uns et des autres. 100% de consentement requis. obligé de prendre du plaisir, mais sans obligation de faire quoi que ce soit, avoir une ouverture d'esprit. Telles sont un petit peu les règles dans les clubs ou dans cette pratique. En vérité, du fait que ce soit une pratique avec des règles, un cadre et des directives qui se passent dans un lieu donné, on est amené ensuite à se demander est-ce que c'est une liberté aussi large que celle qu'on peut penser de l'animal. Liberté sexuelle de l'animal ne veut pas dire qu'on pourrait croiser à chaque coin de rue deux animaux fortement accouplés, mais c'est surtout le fait qu'eux ne vont pas se poser la question de si un passant les surprend, que ce n'est pas commode. Autant l'animal semble libre de vivre sa sexualité dans le champ du public, plus dans le champ du public que dans le champ de l'intime. Mais l'homme, de sa double nature, animale et humaine, ne peut entièrement copier sur la liberté animale sans perdre une partie de son essence. La sexualité de l'homme se discute, doit se discuter, doit continuer à se discuter et à se construire au fil du temps et au travers des cultures pour ne pas tendre vers des dérives. Et elle se doit aussi de s'exprimer dans le domaine du privé pour conserver cette part d'humanité qui fait de l'homme ce qu'il est. Et si le sujet, enfin si prolonger la réflexion sur le sujet vous intéresse, le récit Écotopia d'Ernest Kallenbach peut être intéressant comme support. Merci.
Merci Mathia. Est-ce que le jury, une des membres du jury, est-ce que vous avez une question, une remarque?
Bon, moi, je voudrais vous remercier beaucoup pour cette intervention. Sujet compliqué qui évoque la frontière entre l'homme et l'animal. Et puis qui plus est doublé de la question sur la sexualité. Alors je voudrais vous renvoyer aussi à une lecture peut-être qui pourrait être intéressante dans le domaine de la littérature, mais bon, qui est quand même qui est donc Les animaux dénaturés de Vercors, voilà, et qui notamment questionne cette limite entre à partir de quand on peut considérer qu'est-ce que l'humain, voilà, toute la définition. Alors là, c'est extrêmement juridique aussi, et donc il est aussi question de tabous, voilà. Est-ce que les tabous font la différence avec est-ce que le fait d'avoir des tabous permet de qualifier l'humain? Voilà, pas mal de questions qui pourraient aussi vous intéresser dans cette lecture. Merci à vous.
Merci beaucoup. J'irai lire le livre.
Notre prochaine participante s'appelle Élise. Elle est étudiante en M1. Elle dit qu'elle est une infirmière guerrière victorieuse de géphirophobie et de force insecte, pas inceste, hématophage, épicurienne et amatrice de débats philosophico-psychédélico-existentiels dont seule est la complexité. Élise va nous parler d'inceste.
Merci. L'histoire et l'actualité nous rappellent comme l'inceste fait partie de nous, humains. L'inceste dynastique, la consanguinité assumée permettent le maintien des couronnes. Si l'on en suit les chiffres de 2020, 10% des Français ont vécu un inceste, soit 6,7 millions. Pulsion d'amour irraisonnée où l'intolérable n'est pas, ben pourquoi pas? Quelle limite à l'amour de l'être, surtout quand il est auprès de nous? Faut-il rappeler que l'inceste n'a pas eu d'existence pénale pendant plus de deux siècles, aboli en 1789 au nom de la liberté individuelle? Pourquoi l'inceste ne serait pas l'expression d'une liberté profonde tant qu'elle nuit pas à ceux qui la réalisent, dans l'intime d'un couple quel qu'il soit? Mais difficile pour moi de faire l'impasse sur une rencontre qui m'a probablement amenée ici et maintenant, il y a 13 ans, naissance de mon intérêt pour l'éthique. J'étais étudiante en soins infirmiers dans un hôpital réputé. À chaque lit pour les petits patients, une situation inconfortable, un doute, un remuage de tréfonds, prématurité, illégitimité de vie, malformation. Elle, 4 mois, arrivée la veille pour une plaie périnéale liée à l'introduction de quelque chose dans son vagin. Elle était magnifique. Moi, j'avais 23 ans. La violence était là. Le silence dans le service était pesant, assourdissant. Les rares transmissions permettaient le partage des doutes. Hauteur, comportement soupçonneux, permissivité d'un tel geste au sein du foyer, avancée de l'enquête. Je me souviens de ce moment où la maman m'a laissé la petite lors d'un examen. Inquiète, nous venions de croiser ce papa dans le couloir. Petite, qui avait vécu le pire, lovée contre moi, dans le creux de mes bras, pupille dilatée pour l'examen. Sa grande sœur avait vécu les mêmes horreurs. Le temps judiciaire était activé, il avait avoué ce papa. Suite simple, à cet âge, le tégument cicatrise vite. Et le cœur? Avec vous, à travers cette histoire, vous partagez mes doutes sur liberté et consentement mutuel. L'enjeu de l'inceste est qu'il se réalise dans le cadre d'une relation d'autorité. Rares sont les incestes au sein d'une fratrie gémellaire, comme nous le rappelle Dorothée Ducy, anthropologue. Doute sur les dommages pour au moins l'un des deux et qui explique la réinscription de l'inceste dans le code pénal et des limites de l'exercice d'une liberté qui nuit à autrui. Muriel Salmona nous rappelle qu'un inceste dans l'enfance, c'est 50% de risque de faire des tentatives de suicide, dépression à répétition, troubles alimentaires, troubles du sommeil, conduite addictive. Doute sur l'amour hypothétiquement consenti de l'instant, sur la capacité de ou ne pas consentir plus tard, une capacité qui demande apprentissage, exercice du temps, de la socialisation, parfois expérience du risque, favorisée au petit âge par l'entourage. Quelles conséquences aussi sur la légitimité à désirer et initier un choix quand vous avez été considéré comme l'extension uniquement de la propre chair de l'autre? Doute sur la mémoire cellulaire selon certains neurobiologistes de ce qui s'inscrit en dehors du temps et qui surgit autrement. Douleur, sensation, représentation du corps. Doute sur ce qui n'est pas dit et qui se reproduit dans le cadre de la systémie. Galeano disait « Autant on essaie de se taire, autant l'histoire refuse de se taire ». Permettez le partage de ce dernier doute qui m'est cher. Doute. À la lecture de cette enquête réalisée cette année, indiquant que plus de la moitié des femmes en situation de handicap entendues ont rapporté des crimes incestueux. Alors questionnons-nous sur les conséquences d'une telle violence, ici pour et avec celle, pour qui l'élaboration psychique, la représentation du corps, l'expression si singulière nous échappe si souvent. Aujourd'hui, je débute mon master éthique. Mais toi, a-t-on levé ce silence ? Ce silence qui détruit, ce silence qui fait le lit de la psychiatrie, n'est-ce pas celui-ci qu'il faille collectivement écouter, apprendre à lever, à accompagner, de sorte que l'inceste ne soit plus réalisé dans l'intime commun des foyers, car sa répression, sa répudiation, son dégoût ne semblent être suffisants pour lutter contre ce tabou. Merci.
Merci. Les membres du jury, est-ce que vous avez des commentaires ou questions pour Élise ?
Merci beaucoup pour cet exposé. Je trouve que vous présentez les choses de manière très claire, c'est-à-dire que vous partez du principe qu'un tabou, ça se questionne. Je trouve ça intéressant. Et puis ensuite, vous déroulez les choses en disant ben, un tabou, ça se questionne jusqu'où, en fait. Et je trouve ça, la manière dont vous l'amenez, c'était tout à fait pertinent. Et vous expliquez bien jusqu'à la nuisance, en fait, jusqu'à ce qu'il y ait une victime. Et je trouve que votre exposé est très clair là-dessus et ça m'interpelle. Je trouve que c'est très bien présenté et ça me fait penser effectivement à la question de, voilà, si vous voulez une lecture en master, la question du minimalisme moral chez Ruben Ogier qui part du principe que s'il y a une valeur morale ou en tout cas une norme à garder, c'est celle de la non-nuisance. Et effectivement, ben voilà, les tabous, vous le dites très bien, ils se questionnent jusqu'à la nuisance. Donc je pense que c'est intéressant pour les étudiants en master, globalement, de se pencher là-dessus, parce que je trouve que ça permet d'avoir une vision un peu plus claire des choses, de dire, voilà, la nuisance, elle est là, et donc la limite est là, en fait. Voilà, merci beaucoup.
C'est moi. Et je suis en train de lire Ogier, mais c'est plutôt philosopher ou faire l'amour. Donc
c'est très bien aussi. Vous pouvez lire tout Ogier, vous ne perdrez pas votre temps, franchement.
Merci.
Merci beaucoup. Notre prochaine participante, c'est Emma. Elle est actuellement en M1 et titulaire d'une licence de philosophie. Elle dit que généralement, elle est ensevelie sous les angoisses et les plantes vertes, mais qu'elle peut tout affronter en bottes en caoutchouc. Emma va maintenant nous parler d'odeurs corporelles.
Bonsoir. Je vais donc vous parler du tabou des odeurs corporelles. Dans notre société moderne et occidentale, les odeurs corporelles influencent nos jugements et nos comportements. Elles sont source de rejet et de peur. Nous les cachons et les éliminons, à la fois physiquement, avec du déodorant par exemple, mais aussi dans notre langage. Le champ lexical de l'odorat est en effet particulièrement réduit. Or, ne pas pouvoir verbaliser la chose participe à invisibiliser son existence. Alors, d'où nous vient ce tabou ? D'abord, l'odeur a longtemps été perçue comme vectrice de maladie. Pendant les épisodes de peste, par exemple, on pensait que sentir l'odeur d'un malade était suffisant pour être infecté, et on se parfumait donc pour se protéger de la maladie. On allumait aussi des grands feux d'herbes aromatiques pour purifier l'air. Cet amalgame, dans le contexte d'hygiénisme qui succède aux grandes pandémies, pose les bases du tabou. Le puant est nocif, donc mauvais, et le fragrant est sain, donc bon. Un premier jugement de valeur se pose alors. Celui qui pue est considéré comme malsain et voit sa représentation sociale être entachée. L'odeur corporelle impacte ainsi directement la valeur de quelqu'un. Aujourd'hui, dans notre société, l'homme doit se défaire de son animalité, qui est rejetée par les conventions sociales. Performer ces conventions dénature les individus. Celui qui est civilisé doit être dénaturé, défait de son animalité. Or, sentir l'autre, de manière volontaire et explicite, est un comportement que l'on considère comme animal. Si on essaie de le figurer, on arrive assez vite à l'image d'un chien qui renifle un autre, ou à l'image d'un sauvage. Aussi, un deuxième jugement de valeur se forme. Celui qui sent l'autre lors de cet acte est plus animal comme civilisé. Et inhaler volontairement les odeurs corporelles devient alors tout aussi tabou que le fait de les exhaler. Les deux jugements de valeur, l'homme puant et malsain, et l'homme qui sent l'autre est animal, se confondent. En effet, par opposition à l'homme civilisé qui maîtrise son odeur, nous associons celui qui pue à un être animal parce que son odeur est authentique, non artificielle, et nous considérons que celui qui sent l'autre a un comportement malsain puisqu'il inhale volontairement quelque chose qui peut être considéré comme nocif. La qualité d'homme civilisé, de celui qui sent l'autre et de l'homme puant est alors réduite. Pour ne rien arranger, l'odorat est un sens à part sur lequel nous n'avons pas de contrôle. En effet, les informations détectées vont directement vers le système limbique, qui est la partie du cerveau liée aux émotions et aux souvenirs. Or, les émotions non contrôlées sont souvent perçues comme un résidu de notre animalité. Nous les pensons comme étant opposées à la raison. Il existe un double lien entre odeur et émotion. Nos émotions jouent sur nos odeurs, par exemple du stress peut créer des odeurs acides, et les odeurs provoquent en nous des émotions qui peuvent aller jusqu'au dégoût. Dans le cas du dégoût, comme le dit Christiane Voller dans l'article « Le tabou du dégoût », le corps se montre plus fort que l'esprit. L'odorat a une fonction d'alerte directe, sans médiation. L'odorat court-circuite les conventions sociales. Enfin, nous pouvons difficilement échapper à l'odorat. Et dans notre environnement aseptisé, nous avons l'écœurement facile. À chacun sa faiblesse. Odeur de pied, d'aisselle, de sébum ou d'haleine. Peu importe l'odeur, elle sature notre odorat, nous saisit. Elle force sa place dans notre esprit. Lorsqu'il s'agit d'odeurs corporelles, l'odorat est un sens particulièrement intime. Les molécules inspirées, une fois au fond de notre nez, se fixent sur l'épicélium olfactif, comparable aux papilles gustatives. L'odeur de l'autre s'échappe, dévoilant ainsi de son intériorité au monde extérieur, et cette odeur nous envahit, nous pénètre. En cela, il est vrai qu'elle peut être une véritable agression. Maintenant, quelques conséquences de ce tabou. D'abord, les peurs provoquées par ce tabou sont instrumentalisées par la société de consommation qui nous pousse à acheter des accessoires, ce qui redonne de la légitimité à ces peurs en confirmant que les dites « mauvaises odeurs » doivent être éliminées ou camouflées. De plus, l'uniformisation des odeurs peut entraîner un rejet de soi-même et inciter les individus à se mettre en danger pour masquer leurs odeurs singulières, par exemple avec un lavage excessif. Enfin, il peut servir de justification à des exclusions sociales, qu'elles soient individuelles ou ciblant des groupes. C'est le cas, par exemple, dans un contexte professionnel, il peut être source de renvoi ou de discrimination à l'embauche. Pour finir, je voudrais souligner que les notions de bonne et mauvaise odeur sont relativement subjectives et qu'il serait intéressant de décortiquer nos perceptions afin d'identifier ce qui relève du construit et des associations que notre cerveau a appris à faire automatiquement dans le carcan de ce tabou. Merci.
Merci. Est-ce que vous avez une question? Vous voyez que les sujets dans le master éthique sont pluriels hein, et très, très riches. Est-ce qu'un membre du jury, remarque une question? Merci pour ce sujet très original hein, que vous avez choisi.
Bonsoir, merci beaucoup. Je voulais rebondir sur la fin de votre exposé, extrêmement intéressant. Parler de la subjectivité des odeurs corporelles. Et en effet, toutes les odeurs corporelles ne sont pas forcément mauvaises. On pense notamment à l'odeur d'un bébé.
Oui.
Je ne sais pas si vous avez des enfants.
Si, non, j'en ai pas, mais j'y ai pensé.
Mais un bébé a une odeur très, très particulière. Et c'est une odeur absolument merveilleuse. et d'une manière plus générale, l'odeur de l'autre, celui ou celle que l'on a choisi, souvent peut être considéré comme très agréable.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai.
Donc peut-être que le corps aussi exhale des odeurs qui ne sont pas forcément mauvaises. En tout cas, merci pour votre exposé.
Merci.
Moi aussi, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Et ça me fait penser à une petite histoire en réanimation pédiatrique où les situations sont très très difficiles. Je me souviens, on avait rencontré une infirmière pour un entretien et elle nous disait, on lui demandait comment elle faisait pour vivent dans cet environnement difficile. Et vous savez ce qu'elle a répondu? Elle a dit quand elle rentrait du service, qu'elle allait chez elle, elle allait sentir ses enfants pour pouvoir dormir. C'était une petite anecdote, mais c'est ce qu'elle nous avait dit.
Voilà. Merci.
Emma, vous pouvez répondre, quand vous avez des questions, la parole est libre, hein, donc je sais c'est un petit peu intimidant, mais vous pouvez répondre si vous souhaitez, hein, sur les objections.
J'ai très très peur, alors honnêtement, mon cerveau ne fonctionne pas tout à fait correctement pour l'instant. Mais...
Ok, merci à vous.
Les prochains participants sont deux, c'est Mathieu et Émilie, et ils vont vous présenter une vraie joute sur le cannibalisme. Mathieu et Émilie sont tous les deux étudiants en M2. Mathieu est fan de philosophie morale et politique, éternel stagiaire de l'association AIDE et intrigué par le cannibalisme anthropophagique depuis sa discussion avec un pratiquant. Émilie, quant à elle, est prof de philo, la quarantaine déconfinée qui goûte les sciences humaines, la chair des idées chevillée au corps.
Et pour la technique, ils ont 8 minutes et non pas 5.
Bonsoir. Ça marche ou pas ?
Ah, très bien, merci.
Je me demandais, Mathieu, tu peux peut-être m'aider, ça a quel goût la chair humaine ?
Moi, j'ai pas très envie de penser à cette question, en fait, parce que le sens commun dit que manger les gens, c'est mal, en fait, tout simplement.
Ah oui, peut-être, mais c'est une pratique qui existe, qui a existé. Et qui, à mon avis, promet d'exister encore et peut-être même de se développer, pourquoi pas l'interroger ? On retrouve des pratiques cannibales dans l'histoire des hommes, et les sciences humaines, au fur et à mesure du XXe siècle, se sont éloignées de représentations parfois imaginaires, le cannibalisme comme pratique rituelle, coutumière de certains peuples. Mais on sait que le cannibalisme a souvent été pratiqué par nécessité, lors des guerres qui ont provoqué des famines, et pas seulement loin de nous, du Cambodge à l'Europe. Et en Europe, un exemple, à Leningrad, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant que la ville était assiégée, la police s'est retrouvée contrainte, entre 1941 et 1944, de construire de nouvelles catégories de crimes: consommation de viande humaine ou meurtre pour consommation de viande humaine. Donc c'est pas du récit, c'est pas de l'imaginaire. Après avoir mangé les végétaux et toutes sortes d'animaux, quand on n'a plus rien à manger, quand c'est une question de survie, manger de la viande humaine peut être une partie de la solution.
Oui, mais Émilie, quand tu parles de la survie, tu oublies complètement une partie entière qui pourrait être utilisée argumentativement parlant, c'est le domaine médical. Par exemple, il y a les enquêtes du professeur et docteur Gadjusek qui expliquent que si on se nourrit exclusivement ou on fait un régime alimentaire à base de chair humaine, on se retrouve dans une situation où ça peut développer des encéphalopathies, c'est dur à dire, et c'est à la base dans la viande, dans une protéine. Donc, il ne faut absolument pas en manger. Et en plus, il y a des anthropologues comme J. Cole qui explique que la valeur nutritive de la viande humaine n'est pas très intéressante par rapport à celle des autres animaux, en fait. Donc, d'un point de vue purement de cuisine et de goût, ça n'a pas l'air d'être la chose la plus intéressante à faire.
J'entends que les nutritionnistes ne recommandent pas le cannibalisme, mais on peut reconnaître aussi que ça nourrit nos imaginaires et pas seulement nos corps. Nos récits, nos contes, les mythes, les religions sont empreintes de questions autour de ces pratiques. À la fin du 19e, l'archéologue Gabriel de Mortillier a notamment écrit qu'au-delà de nos besoins nutritifs et de notre gourmandise, les représentations comme manger ses ancêtres pour les honorer, manger ses ennemis pour intégrer leurs forces, où les récits mythologiques d'anthropophagie maternelle sont des récits qui nous racontent. Et je dirais même qui racontent nos origines, sans prétendre aller jusqu'au commencement ou à l'origine des civilisations. Mais symboliquement, les hommes sont emprunts et constitués par des passions humaines. Et les passions humaines sont parfois dévorantes. Manger l'autre, c'est aussi l'aimer, c'est reconnaître son altérité, c'est essayer de l'assimiler. Dans ce sens-là, le cannibalisme pourrait nous donner le goût de l'autre, ou nous parlerait du goût de l'autre. Par exemple, dans le film Grave de Julie Ducournau, on voit bien que le cannibalisme s'ajoute des sentiments humains, comme le dégoût, mais aussi de la fascination. Les films, notamment celui-là, esthétisent et érotisent la question du cannibale en humanisant les supposés monstres qui la pratiquent.
Mais c'est dur de ne pas penser le monstre, parce que regarde toutes nos représentations occidentales du cannibale. Si on part par exemple chez les Grecs, dans le mythe de Dionysos, qui montre bien que le cannibalisme c'est en dehors de la société civile, ou même si on va chez les Romains, dans le Tite-Live, quand on parle d'Hannibal, qui faisait manger ses soldats morts à ses soldats qui étaient encore vivants. C'est encore une représentation qui est ostracisée du côté, on va dire, de la société. Ça remet un peu de la distance. Et donc, si on prend encore un autre exemple, Hannibal Lecter, le personnage de Thomas Harris, quand tu parlais de cinéma, on se retrouve encore dans une situation où là, c'est plus une dimension psychologisante, où on a encore un personnage qui est un peu en dehors de la société. C'est dur de penser ça comme ça. Même Willy Wonka, dans Charlie et la chocolaterie, il le dit, le cannibalisme, c'est pas très bien accepté.
À ce compte-là, sur la question de la civilisation, on peut aussi valider la thèse du méchant sauvage.
C'est vrai. Hein,
l'autre, c'est toujours l'étranger, aux mœurs, aux croyances obscures, violentes, sombres. Et en allant par là, on peut justifier la colonisation comme étant un bien civilisationnel. On peut réhabiliter les théories ethnocentriques qu'elle a favorisées. Et là-dessus, si on emprunte la célèbre formule de Lévi-Strauss dans Race et Histoire, le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie. On peut entendre là qu'on rejette le cannibale hors de la civilisation. On lui refuse une humanité. On le place du côté d'une prétendue animalité, hors les pratiques humaines. Même dans ce qu'on peut considérer comme ses échecs, les guerres, les famines, les crimes, restent quand même des pratiques et des conséquences issues des actions humaines. On a les cannibales qu'on mérite.
Néanmoins, ok, je ne peux pas nier la pratique. Néanmoins, si on va sur une dimension plus morale, c'est quand même extrêmement dur de figurer le cannibalisme, sans parler d'impératifs catégoriques et de faire des positions très précises. L'homme est une fin en soi, enfin une fin, quelle fin, on ne sait pas de quelle fin on parle. Mais néanmoins, si on prend un exemple, par exemple, de Jean Kelevitch ou Karl Jasper, qui vont dire que la mort, d'un point de vue moral, c'est quelque chose qui est l'infigurable. Manger l'autre, manger le mort, ça serait l'infiguré infigurable. On se retrouve dans une situation où quand on oblige le respect de l'altérité, en termes de vertu, sous quelconque façon que ça peut être utilisé en éthique, le faire juxtaposer avec aussi le cannibalisme, ça me semble quelque chose qui est presque quasi impossible en fait.
Alors oui, sur la question morale et politique, justement, si on reste avec Lévi-Strauss, sur la question du cru et du cuit par exemple, il plaçait la civilisation du côté du cuit, mais il projetait aussi dans cet ouvrage une polarisation qu'il imaginait entre le végétarisme et le cannibalisme. Et aujourd'hui, c'est intéressant à regarder à l'époque où on se préoccupe du bien-être animal, de se poser cette question-là. On mange encore de la viande, on abat des animaux, on les chasse. Parfois, on les abat industriellement, souvent, beaucoup. Et pourquoi pas des animaux humains ? Si on radicalise cette polarisation, on peut répondre aux besoins humains aujourd'hui peut-être différemment, et ça vaudrait peut-être le coup d'imaginer, de réinventer les façons de se nourrir en intégrant des formes de régulation, pourquoi pas. Mais je vais aussi dans ton sens sur l'organisation de la sélection, de l'abattage. Ça pose les questions morales et politiques que tu soulevais. Mais peut-être, un jour, avec Roy Lévis, on pourra dire que manger ses pères, c'est le progrès.
Merci.
Mesdames et messieurs membres du jury, est-ce que vous avez des commentaires ou questions ?
Alors moi j'ai une petite question. Donc merci à tous les deux, c'est super agréable de vous écouter. Et on voit que vous avez vraiment pris du plaisir à préparer ça ensemble et ça transparaît vraiment, donc c'est très agréable de vous écouter. J'avais une petite question. Donc c'est très, il y a beaucoup de références, c'est hyper bien documenté votre exposé, donc c'est vraiment très bien construit à ce niveau-là. L'étude sur les risques d'encéphalopathie chez la consommation de viande humaine. Alors ça m'intrigue beaucoup. De un, comment a été construite l'étude ? Est-ce que vous savez comment ça a été fait ?
Faudrait que je le précise.
Et quelles sont les références précises ? Parce que je trouve ça quand même très intriguant.
C'est un médecin anglo-saxon, si je m'abuse, mais c'était dans les années 60, il faudra repréciser le contexte, ouais. Parce que justement, il est extrêmement biaisé, où il était allé voir des tribus, j'ai plus le nom exact, j'avoue, parce qu'à vouloir simplifier les références, parce qu'on en avait beaucoup, ouais. Je pourrais vous retrouver, vous
ouais, ça m'intéresse,
si vous voulez, dans lequel je l'ai lu, où il expliquait en fait qu'il avait suivi des familles d'une tribu australienne, voilà, qui avaient des rites où ils se nourrissaient presque exclusivement de chair humaine, et il les a suivis sur 10-20 ans. Et il a remarqué que c'était principalement des femmes et des enfants qui mangeaient de la viande humaine. Ils se retrouvaient principalement avec des... Enfin, la maladie progressait, en fait. Et ça progressait progressivement, et ça arrivait sur une situation où il y avait vraiment plus de... Enfin, physiquement, les personnes ne pouvaient plus se mouvoir presque, en fait, à partir d'un certain âge, à partir de 40 ans, je crois.
Il y a une corrélation, du coup
Manifestement, il y a eu une corrélation. Donc, c'est ce qu'il avait visiblement constaté.
Okay.
Et il ne voyait pas d'autres liens.
Très bien.
Et je crois qu'il a eu un prix pour ça, d'ailleurs, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si les médecins, ici dans le jury, ont des
mérites à
m'apporter, mais je crois.
Merci. Je veux bien les références, effectivement, si vous les avez précisément.
Je vais la retrouver.
Merci.
Bonsoir, merci beaucoup pour cet exposé et surtout ce thème qui est absolument passionnant. Mais je pense qu'on est totalement entouré de cette référence du cannibalisme et de l'anthropophagie. Et je pense depuis des décennies et depuis que la publicité existe. Je vous invite à faire attention la prochaine fois que vous irez faire vos courses. On est entouré de références à l'anthropophagie. Alors, vous allez déjà dans le rayon pour les enfants, les yaourts, les bonbons, etc. Vous allez voir des fraises, des bananes, des gâteaux affublés de jambes, de bras, de bouche et d'yeux. Donc des représentations anthropomorphes. Et ces représentations anthropomorphes sont ravies de se faire manger par des humains. Vous allez voir les petits pots de petits filous, pour ne pas donner de marque, ils vont être ravis de se faire manger. Quand vous regarderez, quand vous irez chez le boucher ou chez le charcutier, on a toujours des belles affiches ou des beaux petits sujets de cochons qui dévorent des paudriettes ou qui sont entourés, qui sont déjà habillés en boucher, donc ils sont debout, donc la posture de l'humain, sur leurs deux pattes, ou plutôt deux pieds, avec leur petit bonnet de charcutier, et qui tiennent à la main des saucissons, du boudin, et qui ont la langue qui pendouille dans un pot de rillettes. On est en plein dans l'anthropophagie.
Pour conclure, merci pour cette intervention savoureuse et que vous avez si bien incarnée.
Merci.
Les prochaines participantes sont Lou et Paloma, deux étudiantes de Master 1 qui souhaitent vivre une sexualité épanouie dans leur vieillesse.
Bonsoir.
Bonsoir.
Comme vous venez de l'entendre, Paloma et moi souhaitons vivre une sexualité épanouie dans votre vieillesse. Et vous, est-ce que vous souhaiteriez plus tard, dans votre vieillesse, avoir une sexualité libérée, par exemple dans un EHPAD ? C'est sûrement quelque chose d'assez difficile à imaginer. En effet, dans notre société, c'est un réel tabou. Tout d'abord, on va chercher à comprendre pourquoi c'est un tabou. C'est un tabou du fait des doubles représentations sociales distinctes de la vieillesse et de la sexualité. Tout d'abord, la vieillesse est un mot qui gêne, ressenti comme une injure, associé à l'idée de maladie, de faiblesse. Le corps de la personne âgée est souvent réduit à un corps de soins. De plus, la sexualité, du fait de ses représentations sociales, est souvent liée à l'idée de performance. On en exclut donc les personnes âgées. De plus, on rencontre de réelles difficultés dans la sexualisation des corps non normés. On tient à rappeler que derrière l'idée de sexualité, ça englobe l'ensemble des comportements liés au désir sexuel. Les mots sexualité et vieillesse n'ont pourtant pas les mêmes connotations dans le monde entier. En effet, par exemple, dans les sociétés non occidentales, la vieillesse est davantage vue comme un surplus d'expérience. Et par exemple, en Chine, la sexualité et des personnes âgées est vue comme plutôt encouragée.
On constate que ce tabou s'étend jusque dans les EHPAD. Pourtant, les bienfaits de la sexualité sont prouvés. La sexualité permettrait de diminuer l'anxiété et d'augmenter l'estime de soi. On peut donc se demander pour qui est-ce que c'est un tabou au sein des EHPAD. On se rend premièrement compte que c'est un tabou pour les seniors eux-mêmes. Les seniors, pour eux, la sexualité est vue comme une pratique socialement honteuse, dont il ne faut pas parler et dont on doit cacher. C'est également un tabou pour les soignants. Les équipes soignantes sont parfois gênées par cette question de la sexualité et ont tendance à avoir une approche sécuritaire au détriment d'une approche basée sur le choix et sur le respect des résidents. Enfin, c'est un tabou pour les familles qui n'osent pas parler de la sexualité de leurs aînés, mais qui expriment des inquiétudes entre la cohabitation de la sexualité et de la perte d'autonomie telle qu'on la connaît en EHPAD.
Notre optique est de défendre un point de vue qui est celui d'une sexualité libérée au sein des EHPAD, tout en s'assurant du consentement des individus en fonction de leur degré d'autonomie.
Néanmoins, la libéralisation de la sexualité implique des questions éthiques et organisationnelles qui nécessitent de trouver un juste milieu entre la vie collective, la vie soignante et les besoins individuels de chacun.
Dans nos recherches, parmi les dispositifs qui nous ont interpellés et interrogés, on retrouve la mise à disposition de sextoys dans les EHPAD. En effet, cela permet une revalorisation du désir sexuel et du plaisir solitaire. Par exemple, la masturbation n'est donc plus vue comme un trouble, mais comme quelque chose de sain et naturel.
Néanmoins, la mise à disposition de sextoys questionne la limite de la fonction soignante et jusqu'où impliquer nos soignants dans la sexualisation de nos aînés.
On retrouve aussi dans de nombreux EHPAD la question de la formation du personnel soignant qui permet de dédramatiser et de normaliser la sexualité des personnes âgées et d'ouvrir des discussions sur les éventuelles demandes abusives de certains résidents et de trouver donc d'éventuelles solutions.
Néanmoins, on constate que même formées, les équipes soignantes peuvent rencontrer des difficultés pour recueillir le consentement de certains résidents. C'est le cas notamment pour les résidents ayant des troubles cognitifs, et on se rend compte que les soignants ont réellement peur de mal agir avec ces résidents spécifiquement.
De plus, dans un petit nombre d'EHPAD, on constate des chambres d'amour qui sont mises à disposition. Ce sont des chambres intimes qui permettent de favoriser des moments de tendresse hors du contexte médical et de l'aspect collectif des structures.
Néanmoins, les chambres d'amour posent des limites organisationnelles. En effet, la création de planning et d'horaires ne permet pas un climat facilitateur ni à la sexualité ni à l'intimité.
Et enfin, la mise à disposition de lits doubles permet un caractère propice à la sexualité. Et par exemple, lorsque des personnes entrent en couple en EHPAD, ça permet de ne pas chambouler leur quotidien d'avant.
Néanmoins, la mise en place de lits doubles est encore sous-représentée en EHPAD, souvent due à des contraintes organisationnelles ou budgétaires. Pour conclure, nous pouvons dire que nous avons parlé ici de la sexualité dans le sens le plus large, mais lorsqu'on parle de la sexualité dans ses particularités, de nouvelles questions éthiques émergent. En effet, le tabou de la sexualité est d'autant plus présent pour les résidents, pour les relations homosexuelles au sein de ces établissements, ce qui questionne sur la discrimination des personnes âgées homosexuelles. Merci.
Merci.
Merci beaucoup. Est-ce que... je vous dis oui, demain, nous avons d'ailleurs une discussion autour de la question des assistants sexuels pour les personnes porteuses de handicap, mais aussi la question s'adresse aussi pour les personnes âgées dans les EHPAD.
Oui, merci beaucoup pour cette présentation commune. Alors, vous avez tout à fait raison. La sexualité en EHPAD, ça fait partie des tabous des soignants encore aujourd'hui. Enfin, en tout cas, de la plupart, comme d'autres sujets, sexualité, handicap, alcoolisme et fin de vie. Et finalement, quand le médecin ne sait pas, le médecin, le soignant, il peut avoir tendance à, comme vous le soulignez, à rejeter. Et on sait maintenant que le médecin, le soignant, surtout le médecin d'ailleurs, d'un côté c'est trop de choses, des choses qui n'ont pas vraiment un intérêt dans la vraie vie. Il peut être tenté d'apprendre des maladies qu'il ne verra pas du tout de toute sa vie, de médecin ou de soignant, et qu'il ne sait pas des choses très utiles. Et donc, comme vous l'avez dit, il y a d'un côté comme solution potentielle la formation initiale. Ça commence très tôt, et vous le savez puisque vous êtes concerné. Ça doit commencer très tôt. Ces sujets qui n'ont pas été abordés avec, ou insuffisamment abordés là, avec les générations précédentes de soignants. Et puis, comme on est en train de le faire maintenant, c'est aussi informer. Informer aussi pour ne pas rejeter, comme vous l'avez dit, ne pas avoir une vision sécuritaire ou de l'ennui que peut causer un phénomène inhabituel et à prendre en compte, alors que le soignant, comme vous le savez, notamment à l'hôpital, mais aussi en ville, n'a pas le temps. Et ça, c'est du temps.
Notre prochaine participante s'appelle Lucie. Jamais avare d'un petit jeu de mots, elle explique que sa curiosité intellectuelle n'a d'égal que l'obsession d'Harpagon pour sa fortune. Lucie va donc nous parler d'argent.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Qu'est-ce que l'argent ? On ne rentrera pas ici dans la définition chimique de ce métal blanc de transition, de symbole âgé, etc. On s'attardera plutôt sur la définition donnée par le Centre national de ressources textuelles et lexicales, qui précise que l'argent est, je cite, « un ensemble du numéraire des valeurs des biens possédés ou exploités en grande quantité par un particulier ou une collectivité ». Fin de citation. Qu'est-ce qu'un tabou ? D'après le dictionnaire Larousse, il s'agirait entre autres de ce qui, je cite, « ce qu'il serait malséant d'évoquer en vertu des convenances sociales ou morales ». Fin de citation. Réunissons à présent les deux questions précédentes. L'argent est-il tabou ? Pour Janine Mossius-Lavaux, sociologue et directrice de recherche au CVPOF CNRS, dans son ouvrage « L'argent et nous » paru en 2007, parler d'argent serait plus difficile que de parler sexualité. Bien que dans la retenue sur ce sujet, la classe moyenne serait tout de même la moins gênée, les pauvres et les riches ayant ce point commun d'être les moins loquaces à ce sujet, mais vous vous en douterez bien, pas pour les mêmes raisons. Peur d'inciter à la jalousie pour les uns, à la pitié pour les autres. Quelles sont les origines historiques du tabou que peut représenter l'argent ? Si nous nous trouvions en terre américaine ce soir, ma présentation serait totalement hors sujet dans le cadre d'une conférence sur les tabous. En effet, dans ces sociétés plus libérales, le sujet de l'argent n'est absolument pas tabou. Bien au contraire, on est fier de bien gagner sa vie, on ne se prive pas pour le dire ni pour le montrer. Mais pourquoi ce tabou en France ? Janine Mossius-Lavaux identifie diverses raisons culturelles à ce tabou, parmi lesquelles l'impact du marxisme et, je cite, l'idée que le profit, ce n'est pas bien, fin de citation. La culture paysanne, l'habitude des paysans qui gardaient l'argent liquide à la maison et qui n'en parlaient surtout à personne de peur de susciter les convoitises. Yannick Marek, auteur en 2011 de l'ouvrage « Les Français et l'argent », rappelle également que, je cite, « la Révolution française est née d'une crise financière ». L'argent fait-il le bonheur ? D'après Matthew Killingsworth, l'argent serait responsable du bien-être des personnes et par là même, attention, raccourci en vue, du bonheur. Cela jusqu'à un plafond d'environ 74 000 euros annuels. Ce montant correspondrait donc à un certain plafond du bien-être et attention, toujours le même raccourci de l'article du bonheur. Mais alors pourquoi donc considérer un outil qui semblerait améliorer le bien-être de la population comme un tabou ? Et que dire aux personnes qui n'ont pas d'argent ? On remarque que les conséquences du manque d'argent peuvent devenir tabous et peuvent parfois instaurer des situations de gêne, de honte et tendre vers une dévalorisation de la personne. L'argent n'est dans ce cas plus en lien avec une sensation de bien-être, bien au contraire. Passons maintenant à une petite application concrète de la place de l'argent dans les relations sentimentales, voire même en amour. Amour avec un grand A, mais aussi grand A comme argent, coïncidence. Qui n'a jamais entendu « oh, il, elle » et sans doute avec lui, elle, pour l'argent ? Ce type de phrase n'est jamais dit de manière très positive. Il semblerait que même, voire surtout en amour, l'argent reste tabou. Et que dire de la femme qui, attention second degré, ose gagner plus que ce compagnon masculin et du lien avec la représentation féminine dans la société? L'adage dit « quand on aime, on ne compte pas ». Paradoxalement, il semblerait que l'on soit beaucoup amené à compter dans le cadre de nos relations amoureuses. Achat, location d'un logement, d'un véhicule, différents régimes de mariage, compte bancaire joint ou non, dépenses pour les éventuels enfants, éventuels divorces, etc. Cependant, selon l'enquête auprès de 3000 couples de la sociologue Hélène Bello dans le cadre de son ouvrage « L'amour et l'argent » paru en 2017, 40% d'entre eux disent ne jamais parler de leur organisation financière. Paradoxal, non ? Enfin, peut-on s'affranchir du tabou de l'argent ? Si oui, tout le monde le peut-il ? Réponse à la première question, certains l'affirment. Réponse à la seconde, je vous laisse y réfléchir. Merci.
Pour les membres du jury, est-ce que vous avez des commentaires ou questions sur l'argent ?
Je crois que nous avons beaucoup ri. Voilà. Je crois que c'est à peu près. Je crois qu'on n'a pas de commentaires sérieux à faire.
Merci beaucoup. Notre prochaine participante, c'est Héloïse, bretonne pure beurre demi-sel, étudiante en M2 éthique, mais aussi infirmière en psychiatrie, philosophe, pianiste, mais surtout névrosée obsessionnelle de l'apprentissage. Héloïse est la prochaine participante et elle va nous parler de nécrophilie.
Alors du coup, étant névrosée et addict aux nouveaux défis, quand on m'a annoncé que je pouvais travailler sur les tabous, je me suis demandé lequel serait le plus difficile à aborder. J'ai pensé à la nécrophilie. Pour un premier exercice d'oral en public, difficile donc de parler de ce tabou. J'ai toujours le souvenir de ce personnage dans la série Bates Motel, qui s'appelle Norman Bates, et sa mère Norma, qui lorsqu'elle décède, il la déshabille et la déterre, et c'est très étrange. Norman Bates, c'est aussi le personnage du film Psychose, et c'est aussi un personnage inspiré de Ed Gein, un nécrophile, un homme attiré sexuellement par les corps morts de femmes. Enfin, pour avoir plus de matière, je me suis dit qu'il serait intéressant de me rendre en librairie. Je me suis retrouvée à demander à la libraire « Auriez-vous un livre sur la nécrophilie ?» Elle m'a regardée avec des yeux ébahis. Et je suis repartie. Et oui, la nécrophilie est un vrai tabou, il n'y a plus de doute. Mais alors, puisque la nécrophilie dérange lorsque l'on en parle et choque lorsque de vraies situations se présentent, nous pourrions tenter de comprendre à quoi ressemblerait un monde dans lequel la nécrophilie serait socialement acceptable. La nécrophilie est donc définie comme une attirance sexuelle pour les cadavres. Certains médecins, comme Jonathan Rossman et Philippe Resnick, ont même distingué trois types de nécrophilie. L'homicide nécrophile, dans le but de tuer quelqu'un et d'obtenir un cadavre. Le fantasme nécrophile, c'est-à-dire avoir du désir pour un cadavre et s'abstenir de passer à l'acte. Et la nécrophilie régulière, qui définit l'acte sexuel même avec les cadavres. À mon sens, le consentement est la première problématique à émerger. L'acte sexuel se définit habituellement comme un acte à caractère intime entre deux individus consentants. Pourtant, la nécrophilie est un acte sexuel intime où seul l'un des deux individus est consentant, la personne décédée ne pouvant donner son accord post-mortem. Des lois protègent pourtant les cadavres. Dans le Code pénal, l'article 225-17 stipule que toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Et que la peine est portée à 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende lorsque les infractions ont été accompagnées d'une atteinte à l'intégrité du cadavre. En effet, même dans un monde où la nécrophilie serait admise, elle devrait nécessairement être régie par des lois. Nous pourrions imaginer un consentement transmis avant le décès à l'image des directives anticipées. Ainsi, il semblerait possible de ne pas transgresser la loi si l'individu a, avant son décès, donné son accord pour que son corps puisse être accessible à l'acte sexuel. Mais dans cette dernière phrase ressort une vraie problématique. L'acte sexuel a pour fonction primaire la reproduction, la fécondité. Or, un corps mort ne peut en être synonyme. Il semble pourtant réducteur de penser que l'unique fonction de la sexualité et du corps est la reproduction. Au XXIe siècle, les mentalités ont évolué. Pas besoin d'avoir des enfants pour être heureux et pour avoir une sexualité épanouie. De plus en plus d'individus considèrent même comme immoral le fait d'avoir des enfants dans un monde qui s'auto-détruit, depuis maintenant de nombreuses années. Se reproduire avec les morts ne serait donc pas dérangeant puisque cette fonction du corps humain n'a plus toujours l'importance qui lui était attribuée auparavant. Mais dans le fond, avec ces arguments, la nécrophilie pourrait paraître acceptable. Mais cette attirance peut-elle vraiment être saine ? Pour cela, il convient de distinguer deux éléments. Entre désirer sexuellement un cadavre parce qu'il semble vivant, ou bien désirer un cadavre parce que l'individu ressemble et donc est un cadavre, quel est le plus acceptable ? Il semblerait qu'au nom du principe de non-malfaisance de Beauchamp et Childress, la deuxième option semble non tolérable, puisqu'elle entraîne potentiellement un homicide volontaire. La première option, en revanche, celle de désirer un cadavre parce qu'il semble vivant, ramène l'individu nécrophile au potentiel souvenir qu'il a de la personne décédée. La nécrophilie ne pourrait-elle donc pas plutôt être le signe, peut-être, d'un deuil pathologique dans certaines circonstances ? Enfin, lorsque le nécrophile ne possède aucune attache particulière à l'individu ou au souvenir de la personne décédée, cela ne serait-il pas le signe de troubles psychiatriques ? Car dans certaines cultures, la mort est célébrée, mais jamais un cadavre ne sera célébré en étant soumis à des pulsions sexuelles d'individus. À vous désormais de réfléchir à ces questions et à la gymnastique intellectuelle que cela impose. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.
Merci Héloïse. Une question du jury. Pensez à bien rédiger vos directives anticipées. Julien Nizard.
Merci pour votre présentation qui était à la fois intéressante et drôle. Alors vous avez raison d'aborder la question des directives anticipées dans un sujet comme celui-là, même si vous l'avez fait avec un petit peu d'ironie. Et en fait, quand vous regardez le modèle des directives anticipées proposées par la Haute Autorité de Santé, vous voyez qu'il y a deux situations. Celle où on est supposé sain, exemple de maladie grave, donc on peut imaginer que vous vous situez dans cette première catégorie, quand vous parlez de faire des directives anticipées sur la nécrophilie, ou alors si on est porteur d'une maladie grave, en partant du principe que quand on est franchement malade, on ne prend pas les mêmes décisions que quand on ne l'est pas. Alors après, c'est vrai que les réanimateurs, par exemple, se sont dit les directives anticipées telles que proposées par la Haute Autorité de Santé, c'est un peu léger. Donc ils ont fait une formulation beaucoup plus complexe avec toute une série de questions que s'oppose en fait le réanimateur quand il a affaire à quelqu'un qui n'est plus en état d'exprimer sa volonté. Et vous avez raison, c'est un vrai bon sujet de voir ce que pourraient proposer comme directive anticipée des psychiatres, par exemple, ou des gastro-entérologues, ou des médecins de la douleur. Donc ça, c'est une bonne piste. Je vous remercie sincèrement de l'avoir suggéré.
Merci. Et c'est potentiellement parce que je suis infirmière en psychiatrie que je me suis posé la question.
Moi, j'ai une petite question. Je trouve la distinction que vous avez faite entre le désir du cadavre parce qu'il ressemble à la personne vivante lorsqu'elle était vivante versus le désir d'un cadavre parce qu'il ressemble à un cadavre hyper intéressante. Et je trouve qu'elle permet voilà, je pense que c'est un point de départ vraiment intéressant pour une réflexion. C'est une distinction qui est de vous ou alors vous l'avez empruntée à un auteur ?
J'y avais déjà pensé et quand on s'est réunis pour présenter la joute oratoire, c'est des choses que les autres m'ont aussi... dont ils m'ont aussi parlé, et du coup, je l'ai cherché à la développer un peu seule aussi.
Ok, bah je trouve ça vraiment très intéressant. Je trouve que c'est un point de départ vraiment, vraiment, vraiment pertinent pour une réflexion. Voilà. Merci.
Merci.
Oui, l'anthropologue David Le Breton évoque, peut-être pas de manière aussi directe, mais en tout cas, justement, ce statut du mort, en fait. Est-ce qu'il conserve encore sa part de vivant ou pas ?
Oui. J'avais pensé faire une parler d'Aristote avec la distinction entre l'âme et le corps, mais c'était trop court. Merci.
Merci.
Les prochaines participantes sont deux, c'est Claire et Nadège. Constamment en vadrouille et en recherche de liberté, Claire souhaite se mettre à nu en compagnie de Nadège, une infirmière curieuse du monde, mais aussi timide, et qui va se présenter sur le devant de la scène en vous imaginant tous à poil.
Bonsoir. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Cet été, j'étais en vacances à la mer avec des copains, avec trois copains. Donc la plage, le soleil, la chaleur, je pense que vous avez tous l'idée. Et là, ils sont tous à poil. Je regarde où ? Moi, je ne suis pas habituée à ça. Donc, je ne sais pas quoi faire de mes yeux. Et en même temps, je ne peux pas faire non plus comme eux. Mais j'aimerais bien faire comme eux parce qu'ils m'ont l'air tellement à l'aise, tellement libre. Alors, je me suis dit que j'allais travailler là-dessus. Et je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas assez travaillé. Je ne suis pas prête à le faire devant vous ce soir. Mais peut-être Nadège ?
Non, merci.
Non, désolée. Alors, pour en revenir au sujet. Ici, le tabou, c'est pas tant le sujet de la nudité, mais le sujet nu. Si on reprend la définition du tabou, un tabou, c'est un interdit, plus ou moins implicite, qui repose sur des croyances, un système culturel, religieux ou autre. Mais si je parle d'un interdit, alors je suis sanctionnable si je le brave. Dans notre cas, je suis soit voyeur, soit exhibitionniste. Et c'est ce que vient nous rappeler la loi, qui explique aussi pourquoi nous ne sommes pas nus devant vous ce soir.
Alors oui, effectivement, le code pénal dispose, selon l'article 222-32, que l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Alors avec Claire, on a essayé de comprendre, mais aussi d'identifier les différents corps nus selon leur contexte. Partons du début. Le corps nu du nouveau-né, qui lui adore être tout nu, mais qui a besoin d'être contenu dans un linge, dans un bain, ou même avec des personnes qui le rassurent. Donc nu, ok, mais dans un contexte rassurant. Et puis le corps nu d'entretien, c'est-à-dire nous-mêmes, sous la douche, faisant notre toilette, notre regard dans le miroir face à notre propre schéma corporel. Et puis, les questions qui nous viennent par rapport à ça. Ça relève de l'intime, c'est un moment à soi. Et puis il y a le corps nu d'entretien, mais à l'hôpital. Pensez-vous que la personne soignée soit capable d'accepter du jour au lendemain de se mettre à nu face à des soignants ? Je ne pense pas. Alors vient la notion de consentement, qui est une étape clé lors de ce soin, une étape majeure. Mais malgré ce consentement bien établi entre le patient et le soignant, le soin en lui-même ne reste pas forcément une partie de plaisir. Alors, certains mécanismes vont être mis en exergue par le soignant pour essayer de réenvelopper la personne lors de ce soin où la personne est toute nue. On va parler de mécanismes, par exemple, on va mettre en place de la musique, on va mettre des huiles essentielles, on va discuter, on va mettre de la chaleur. Et puis il y a d'autres mécanismes aussi, tels que des mécanismes de défense inconscients qui vont être mis en place, tels que l'humour. Il y a aussi le corps nu souffrant, auquel on peut penser quand les personnes qui attendent depuis très longtemps aux urgences, qui sont dans une douleur intolérable, peuvent se mettre à nu pour exprimer leur douleur corporelle en occultant leur pudeur. La situation les amène tellement vers une souffrance insoutenable qu'ils décident de l'exprimer par cet acte de nudisme.
Ensuite, on aurait le corps nu sexualisé, désiré et en jouissance lors d'un acte intime, seul ou accompagné. Puis, pour finir, par opposition, on aurait le corps nu non sexué qu'on peut trouver dans le nudisme pratiqué par les naturistes. Le naturisme, au début, c'est un mouvement qui se veut thérapeutique. Exposition au soleil, sortie aux grands airs de la montagne, par exemple. L'idée, c'est de découvrir sa peau pour découvrir sa vraie nature. Au début, ces gens qui venaient d'un milieu plutôt aisé ne se découvraient que partiellement, donc on ne voyait pas leur sexe. Et puis, petit à petit, le nudisme total s'est démocratisé avec l'argument de certains auteurs selon lequel, si on prenait le temps de s'habituer, alors la curiosité disparaîtrait. Et c'est là où nous, on veut en venir aussi. Si je travaille cette curiosité, ces interrogations autour d'un tabou, prenez celui que vous voulez, si j'accepte de mettre à nu le sujet pour y voir une certaine vérité, sa vraie nature, alors après, je vais être capable de le travailler et d'en donner une réponse adaptée. Ici, si je m'interroge sur ce corps nu, si je cherche à comprendre ce corps nu, Si j'éduque mes yeux à ce cornu, alors j'apprends à adapter mon regard et mon comportement face à celui-ci. Et le contexte joue son rôle. Il y a la notion de pudeur d'un côté, et puis il y a cette question de la sexualisation qui dépasse souvent son contexte. Et nous, les femmes, on n'a pas besoin d'être nues pour être dénudées et sexualisées.
Eh bien non, malheureusement. Cela fait référence à cet été où la presse a pu mettre en lumière ce problème sociétal, où des femmes se sont fait gifler, voire même virer de lieux publics, sous seul prétexte qu'elles étaient en train d'allaiter. Alors, il y a une députée française qui a souhaité créer un délit d'entrave à l'allaitement maternel dans l'espace public. Cette proposition rappelle aussi qu'allaiter en public n'est pas une infraction d'exhibition sexuelle, car aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est souvent ce qui est reproché aux femmes qui donnent le sein. La sexualisation du sein de la femme est un contexte répétitif en Occident, mais tellement différent dans les autres cultures du monde. Finalement, on en revient bien au contexte. Merci.
Mesdames, Messieurs les membres du jury, avez-vous des commentaires, des questions ?
Merci, merci à vous deux. Merci beaucoup. Et on va accueillir donc dernière candidate, Léa Mull.
Léa, c'est une étudiante en première année d'éthique. Elle est passionnée de sport et de philo et elle explique qu'elle est probablement dopée au café pour cette joute.
Alors bonsoir à tous. Donc pour terminer cette joute, moi je vais vous parler d'un sujet pour les plus sportifs d'entre vous, le dopage. Je vous affiche, c'est mieux. Pourquoi est-ce qu'on légaliserait pas le dopage dans le sport de haut niveau ? Donc là, je sens que cette proposition, déjà, elle risque de contrarier certains d'entre vous. Mais écoutez, ça tombe bien parce qu'on est là pour parler de tabou ce soir. Donc par dopage, il faut vraiment penser le fait que c'est l'idée d'augmenter en fait ses performances physiques et mentales, et ce à l'aide de procédés qu'en général on peut qualifier d'artificiels. Donc c'est bien un tabou, hein, même si dans le grand public c'est pas trop difficile d'en parler. Dans le monde du sport, c'est pas la même histoire. Les athlètes, ils ont du mal à aborder ce sujet entre eux, et par exemple le fait qu'il y ait un service comme Écoute Dopage qui existe, qui est un service à la fois anonyme et gratuit, ça montre bien qu'il y a une difficulté pour les athlètes tout simplement d'aborder ce sujet. Donc c'est bien un tabou et on va commencer par regarder un petit peu les fondamentaux de cette lutte. Donc en général, quand on parle de lutte contre le dopage, il y a trois grands arguments qui sont cités. On va retrouver l'égalité sportive, la volonté d'un sport propre et enfin, dernier argument, ça va être celui de la santé des athlètes. Sauf qu'en fait, quand on se penche un petit peu sur ces trois arguments-là, on se rend compte qu'ils sont discutables et qu'on peut les remettre en question. Donc écoutez, ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire ce soir. On va en discuter et on va les voir un par un. Donc le premier argument, celui de l'égalité sportive. S'il y a bien un milieu dans lequel justement il n'y a peut-être pas vraiment d'égalité, c'est peut-être celui justement du sport de haut niveau. Pourquoi ? Parce qu'à entraînement égal, les athlètes ils vont avoir tendance à se différencier par des avantages génétiques. C'est assez difficile finalement de parler d'athlètes qui partent vraiment sur un pied d'égalité. Si par exemple on prend une femme de 2 mètres dans un concours de 100 hauteurs face à, je sais pas, Mimi Mati, on sait bien quelle sera l'issue du concours. Donc vraiment parler d'égalité c'est un petit peu difficile. Ensuite, le deuxième argument, celui de la volonté d'un sport propre. Donc ça, c'est aussi discutable parce que, en général, ça va être l'argument qui va être rabâché par les instances de lutte contre le dopage. On veut un sport propre, on vise un sport propre. Sauf que ce terme-là, en fait, déjà, de sport propre, il n'a pas vraiment de sens. Par exemple, la liste des produits interdits, elle va changer d'une année à l'autre. Il y a des produits qui sont autorisés, puis interdits. En plus, on a certains produits qui sont déjà présents de base dans le corps des athlètes. On a le cas, par exemple, d'un skieur finlandais qui, à quelques décennies de ça à peu près, avait un très fort taux d'OPO dans son sang dû à une anomalie génétique. Donc déjà, ça interroge un petit peu le critère précédent de l'égalité, parce que forcément, il était avantagé génétiquement. Et puis, en plus de ça, forcément, est-ce que ça signifie qu'il faut un certain seuil d'un produit dans le corps d'un athlète pour que ce soit plus un sport propre ? Enfin, on voit bien que c'est un terme qui est finalement assez creux et qui se base finalement vraiment sur de l'arbitraire. Enfin, le dernier argument, ça va être celui de la santé des athlètes. Donc ça, c'est probablement l'argument qui est le plus intéressant et le plus fondé, parce que c'est un fait, il y a certains produits qui peuvent s'avérer dangereux pour la santé des athlètes. Sauf, encore une fois, mince, je ne devais pas passer, sauf que déjà, c'est assez paternaliste de partir du principe que les athlètes ne sont pas assez grands pour savoir par eux-mêmes en fait, ce qu'ils peuvent consommer et ce qui va être bon pour eux. Ensuite, quand on voit qu'on a certains athlètes qui peuvent s'entraîner jusqu'à 20 fois par semaine, moi, ça m'interroge un petit peu sur cette notion de sport santé, parce que s'entraîner 20 fois par semaine, c'est quand même pas forcément si bon que ça pour la santé.
Et enfin, on a aussi des sports comme le football américain, comme la boxe, qui sont toujours légaux, alors qu'on sait très bien que ça provoque énormément de traumatismes chez les athlètes. Donc pourquoi pas l'argument de la santé, sauf que ce serait bien que ce soit un petit peu cohérent avec le reste des autres pratiques dans ce milieu-là. Donc on voit bien que le fond de cette lutte, déjà, il est questionnable. Mais en plus de ça, ça nous amène aussi à nous demander pourquoi est-ce que les athlètes, finalement, ils en viennent à se doper. Donc au final, ce qui serait peut-être problématique, ce serait tout simplement l'essence du sport dans le système actuel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on demande aux athlètes de réaliser des performances qui sont toujours infiniment meilleures, et ce, à l'aide de ressources qui sont finies, donc des performances infinies avec des ressources finies. Et par ressources finies, je veux dire leur corps. Donc on voit bien qu'en fait, c'est juste pas possible. Forcément, les athlètes, ils vont avoir tendance à se doper, c'est naturel, ça fait partie de l'essence du sport, au final, peut-être, de se doper. Donc face à ça, on a deux solutions. Ou bien on change de paradigme et on sort d'un modèle compétitif, sauf que je crois qu'il n'en est pas vraiment en question pour le moment, ou bien, dans un modèle certes un peu utopiste, on va encadrer et financer les athlètes, afin qu'ils ne dépendent pas financièrement de leur performance, et puis, pourquoi pas aussi encadrer médicalement ceux qui souhaitent se doper, parce que de toute façon, il y en a qui le font déjà. En plus, avec la lutte telle qu'elle est menée actuellement, en général, ça va être les classes les plus précaires qui vont se mettre le plus en danger, parce que c'est celles qui ont juste accès aux médicaments un petit peu douteux. Tandis qu'elles, les classes les plus aisées, elles vont avoir accès de manière illégale aux meilleurs médicaments. Donc on voit bien que de toute façon, il n'y a pas de réelle solution avec ce problème du dopage. Mais ça pose quand même quelques questions. Et au final, c'est peut-être pas si bête de se demander si on ne devrait pas légaliser le dopage. Merci.
Bien, le jury, est-ce que vous avez une question pour Léa ?
Bonsoir. Merci beaucoup pour cet exposé. Vous avez vraiment bien ciblé le problème. Et je trouve votre démonstration sur les trois arguments extrêmement convaincante.
C'était le but, tant mieux.
Alors maintenant, comment expliquer que le dopage reste interdit et reste un tabou ? Alors, est-ce que, c'est une piste, est-ce qu'on ne pourrait pas qualifier le dopage et les produits dopants de drogue ? Ce sont des drogues, pour beaucoup. Et les drogues sont aujourd'hui un tabou dans notre société. Et c'est un tabou dans notre société parce que, ben justement, ça fait partie des produits qui sont, paradoxalement, qui incarne toutes les valeurs de notre société, ou certaines des valeurs de notre société. La rapidité, la puissance, le profit. Et c'est pour ça que les drogues sont tabous dans notre société, en tout cas les drogues qu'on interdit. L'alcool, on le sait, est une drogue. Le tabac est une drogue. Mais ce n'est pas une drogue comme l'ecstasy, comme le cannabis, ou comme la cocaïne. Parce que justement, ce sont des produits qui ne révèlent pas, qui révèlent les valeurs d'une certaine société, encore une fois, de puissance, de profit et de rapidité. Et donc, me semble-t-il, si le dopage est aussi tabou dans notre société aujourd'hui, c'est parce que ce sont précisément des drogues. Et je vous invite, si le sujet vous intéresse, à lire un article de Jean Danet, sur un professeur de droit de l'université de Nantes, avocat, qui a travaillé beaucoup sur les drogues, justement, dans nos sociétés contemporaines.
Je dirais ça.
Et merci, en tout cas.
Merci à vous.
Donc, le jury a une grille d'évaluation qui concerne à la fois la forme et le fond, d'accord ? Le contenu, les arguments, et puis la forme. Et bien sûr, bravo à tous les et toutes les étudiants du master éthique. Enfin, vraiment, je suis assez admiratif de ce que vous avez fait ce soir. Je ne sais pas pour le public, mais c'était quand même très original. Et voilà. Le prix, bon, c'est anecdotique, hein, j'ai envie de dire, mais c'est un prix qui est délivré, bien sûr, par le lieu unique et l'association Ethica, un prix de 50 000 euros. Non, je déconne. Non, c'est un prix, donc bon, on va vous le dire. Enfin, vous le savez déjà, ça vous permettra d'acheter des places de spectacle au lieu unique, bien sûr. Au lieu unique. On a 5 minutes, 3-4 minutes, ils sont derrière la scène. Voilà, donc le jury a fini de délibérer. Ils vont arriver. Voilà, on les accueille sur scène. Vous avez les micros, vous allez les prendre ici. Hop, on vous laisse la scène.
Alors déjà, au nom du jury, on voulait évidemment toutes et tous vous remercier pour vos interventions qui étaient toutes de bonne facture. Vous y avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir aussi. Vous les avez très bien incarnées. Donc déjà, on peut à nouveau vous applaudir. Alors, vous êtes emparés diversement des tabous, certains sur un mode plus sérieux, d'autres plus léger, avec le jeu aussi. Et de fait, nous avons eu beaucoup de mal, évidemment, à départager, puisque entre une évocation de tabous qui questionne des thèmes extrêmement contemporains et puis des choses qui nous semblent un peu plus lointaines, fantasmagoriques, parfois métaphoriques, évidemment c'est difficile de jauger. Donc nous avons décidé à l'unanimité d'attribuer finalement ce prix à plusieurs interventions. Donc nous avons trois ex-aequo, voilà. Alors nous allons décerner un premier prix à Élise Roqueton pour son intervention sur l'inceste.
Élise, vous pouvez nous rejoindre sur scène.
On est avec nous. Alors là, évidemment, c'est sur un mode un peu plus profond, plus sérieux, et on a bien senti le vécu dans cette intervention, ce qui nous a évidemment beaucoup convaincus aussi. Le deuxième prix ex aequo ou premier, on ne sait plus très bien, est attribué au duo Mathieu Boris et Émilie Martinsy sur le cannibalisme. Vous pouvez nous rejoindre.
Mathieu et Émilie, oui,
rejoignez-nous. Donc on a pris beaucoup de plaisir à vous écouter tous les deux. Effectivement, le duo fonctionnait très bien. Vous avez pas mal questionné. Enfin voilà, vous avez peut-être pas fait le tour de la question, mais en tout cas, vous nous avez emmenés dans des contrées très lointaines, dans des altérités radicales. Et puis donc la troisième lauréate. Ex aequo première et donc Héloïse Ledolédec pour la nécrophilie. Sujet éminemment compliqué que vous avez traité toute seule, donc à ce titre-là nous vous félicitons. Voilà.
Merci à vous, merci les membres du jury, merci d'être certains venus de loin et merci à toutes et à tous, merci à tous les étudiants du Master Éthique, bravo à vous.
Vous êtes toujours sur Jet FM dans Au Flux et à Mesure. Vous venez d'entendre une joute oratoire des étudiants en Master Éthique à l'Université de Nantes, qui s'est tenue dans le cadre de la 7e édition de Questions d'éthique, un événement porté par le lieu unique et l'association Ethica en décembre dernier à Nantes. Mercredi prochain, à 18h toujours, vous pourrez entendre Métropole et contre-pouvoirs habitants, une table ronde organisée par le GRAP, le groupe de recherche et d'action sur la production de l'espace, le 23 janvier 2021 à la Parole Errante à Montreuil. À suivre dans l'immédiat, Pensée locale, un enjeu de société. Un programme court proposé par la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Tout de suite après, vous pourrez retrouver l'émission littéraire « Je suis venu vous lire ». Bonne soirée sur Jet.